Ils ont l'impact à cœur et de l'or dans les mains. Ils sont les impactors face aux défis sociaux et environnementaux du siècle. Plus que tout autre, l'entreprise à mission révèle et incarne les valeurs de son créateur. Il ose chaque jour se lancer, convaincre, mobiliser, fédérer et réussir. Parce que se transformer soi, c'est déjà changer le monde. Je suis Laurence Garrison, coach certifié ICF. J'aide les impactors à déployer leurs valeurs et à partager ici avec vous leurs expériences et toute leur énergie positive. Bienvenue.
Bonjour Laurence.
Je suis tellement ravie de te recevoir aujourd'hui parce que pour tout ce que tu as fait déjà et pour tout ce que tu souhaites continuer à faire, aujourd'hui on va parler fashion. Donc je suis particulièrement contente, mais c'est aussi parce que quand on parle d'impact sociaux, environnementaux, c'est compliqué d'ignorer l'industrie textile qui pèse lourd aujourd'hui dans le changement climatique. Je crois qu'il arrive en troisième ou quatrième position après les transports et l'habitation. Pour resituer quelques chiffres, aujourd'hui, l'industrie textile, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre et 4% de l'utilisation de l'eau potable, notamment malheureusement à cause de ces phénomènes de fast fashion, de cette mode rapide qui pousse à l'hyperconsommation. J'avais vu des chiffres hallucinants d'ailleurs sur le nombre de vêtements qui ne sont même pas portés, ouais. Qu'on retrouve d'ailleurs sur Vinted, neuf avec étiquette, etc. Et à côté de ça, il y a des initiatives qui commencent justement à inspirer un changement d'état d'esprit face à cette consommation de mode qui est importante pour nous parce que justement dans mon parcours personnel, etc., j'en ai déjà parlé, le beau, le fait de se sentir belle, pour moi c'est loin d'être superficiel, c'est important. Mais du coup voilà, comment on intègre tout ça? Donc je te passe la parole Céline, qui es-tu et que fais-tu?
Alors, donc, je suis Céline Lescure, je suis la fondatrice de la marque Plume Paris. Je vais avoir 47 ans au mois de juin et je suis la maman de 3 garçons. Voilà, déjà, ça met le décor.
Ça pose.
Ouais, exactement. Plume est une aventure qui a seulement 3 ans. On vient de fêter nos 3 ans. Est-ce que tu veux que je t'explique comment j'en suis venue à créer Plume? Peut-être que c'est ça, et ensuite expliquer.
On va complètement passer par là, c'est l'idée aujourd'hui.
Ok. Parce que Plume, voilà, a une vision un peu différente, un petit peu différente du monde du prêt-à-porter, en tout cas de l'industrie du prêt-à-porter. Et ça n'a pas été, une démarche volontaire. Dès le départ, tu vas voir que c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus subtilement. Comme toute entreprise, toute création de business, en fait, toute aventure, moi, je suis profondément convaincue qu'il faut que ça soit un cheminement et que, en tout cas, moi, j'ai pas une vision très, très claire. J'ai jamais une vision très, très claire de ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai essayé de faire avec ce que je sais faire et avec mes envies. Et ensuite, quand je suis en face d'une problématique, j'essaie de le décomposer par petits problèmes pour essayer de faire mieux et surtout y arriver. Et c'est comme ça qu'est née Plume. Alors moi, si tu veux, je suis une complète autodidacte.
Pardon, c'est de poser un petit peu qu'est-ce que c'est Plume aujourd'hui.
Oui,
et après, je te guiderai pour faire le rewind. On recommence au début.
Ok, alors écoute, Plume, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de prêt-à-porter féminin qui propose des vêtements en précommande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la précommande? Ça veut dire que nous créons un prototype qui est testé pour son bien-être, pour son style et pour sa qualité. Ce prototype est shooté dans un shooting classique. Et ensuite, nous le proposons sur notre site en précommande pendant 3 semaines avec une remise de 30% puisque le vrai prix de cette pièce est le prix en stock, donc lorsqu'elle sera en stock. Et donc, nos clientes ont la possibilité de précommander pendant 3 semaines et ensuite nous fabriquons les pièces à la suite de ces précommandes. Donc l'idée de ça, c'est un, d'être moins impactant pour la planète parce que les quantités fabriquées sont beaucoup plus raisonnées et en fonction des commandes qui ont été passées. Les pièces ensuite fabriquées pour les personnes qui ont précommandé, donc il y a quelque chose d'encore plus personnel, de plus fort dans cette aventure du vêtement. Et puis, nous avons décidé d'accompagner notre cliente en faisant une remise parce qu'on s'est dit que c'était peut-être plus simple d'accompagner dans le plaisir ce changement d'usage et que entre une jolie robe que tu vas pouvoir acheter sur une marque qui va avoir pignon sur rue et qui va être de très très belle qualité et également une de nos robes, qu'est-ce qui va faire que tu vas patienter un mois et demi par rapport justement à cette pièce que tu vas trouver dans la rue à côté de chez toi? Peut-être que les 30%, c'est une bonne solution. Donc voilà, nous, c'est notre façon de voir les choses. Et en même temps, et ça, c'est vraiment l'identité de Plume, c'est de continuer à inspirer les femmes, de continuer à leur proposer des allures et de travailler sur des belles pièces. Pour nous, une pièce durable, c'est une pièce qu'on va vouloir garder longtemps parce qu'on l'aime, parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on est attaché et qu'on a su s'exprimer avec. Et voilà, c'est notre façon de voir les choses. Donc, tu verras des looks, tu verras des histoires. Ça, c'est vraiment la patte de Plume.
Merci. Et d'ailleurs, qui nous met aussi beaucoup en valeur. Enfin, j'invite tout le monde à aller voir. C'est aussi parce qu'on sera bien mis en valeur. Tu as apporté deux choses qui me semblent très importantes. C'est l'accompagnement par le plaisir. Alors moi, je suis une grande militante. Hein. C'est vraiment un terme que je remets au centre de tout et même au centre du cheminement dans un projet entrepreneurial. C'est vrai qu'on a souvent tendance, les entrepreneurs, à être un peu la tête dans le guidon et à se dire « je prendrai plaisir à la fin quand tout ça sera fait. Après, je pourrai profiter. Après, je pourrai. » Et j'insiste beaucoup sur le fait que l'énergie créatrice elle-même vient justement de ce plaisir au quotidien et comment remettre, comment changer grâce à ce plaisir. Et tu l'évoques aussi dans le changement d'état d'esprit face à la mode.
Oui, oui. Alors, tu sais, là, on parle de vêtements. Et moi, je me suis rendu compte, je ne suis pas du tout une ultra modeuse. J'ai toujours adoré regarder les photos, les allures, mais je ne suis pas une experte. Et tu vois, avec mon associée Élise, c'est peut-être des deux, alors que c'est moi qui suis à la direction artistique et à toute la création. Des deux, ce n'est pas moi qui suis la plus complètement fan de mode. Et, j'ai un rapport aux vêtements convaincu que le vêtement est un moyen de communiquer. En fait, c'est dans notre ADN depuis la nuit des temps. Les hommes préhistoriques ont appris à broder des coquillages et des os sur les peaux de bêtes qu'ils portaient avant même de savoir fabriquer des huttes. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient un besoin d'expression, d'appartenance, d'exprimer ce qu'ils sont ou quel métier ils exercent, en tout cas quel rôle ils exerçaient dans la tribu et même dans les tribus les plus reculées dans le monde, tu verras toujours un travail de costume, c'est dans notre ADN. Nous, les hommes, les êtres humains, on a dans notre ADN ce besoin d'expression via le vêtement. Alors aujourd'hui, tu vas pouvoir te dorloter dans une maille bien confortable, tu vas pouvoir te sentir confiante quand tu as besoin d'un entretien d'embauche et tu vas t'habiller en fonction, tu veux séduire, tu veux être en appartenance, tu vois, à un groupe aussi, ou raser les murs. Tu peux aussi t'habiller pour raser les murs parce qu'on n'a pas envie, tu n'as pas du tout envie qu'on t'embête ce jour-là. Le vêtement est ton moyen d'expression. Et c'est aussi un moyen d'expression vers soi, donc vers les autres et vers soi. Donc, je suis absolument convaincue qu'on ne changera pas. C'est dans notre ADN. Et donc, la question était, comment faire mieux ? C'est-à-dire que le vêtement, il sera toujours là, il est important et le plaisir est fondamental pour qu'on se sente bien. La question, c'est comment faire mieux ? Et moi, si tu veux, ça, je l'ai compris que avec le temps. J'avais mon rapport très personnel aux vêtements, aux matières, j'ai toujours été impressionnée de l'artisanat, du savoir-faire, de ce que certaines femmes ont capacité à avoir une allure quand elles se présentent comme ça à nous. Mais j'ai mis longtemps, moi, déjà, à comprendre que je pouvais vivre de ma création. Donc, j'ai attendu, tu vois, 35 ans pour assumer que ma créativité pouvait, comment dire,
Pour la différence.
se monétiser, voilà, se monétiser. Et je suis, parce que je faisais beaucoup de photos, mais moi, j'avais l'impression que les gens venaient me voir parce que c'était gratuit. Alors que, bon, a priori, je faisais de jolies photos. Et en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que j'ai compris en étant photographe le rapport que j'avais aux vêtements. Je faisais beaucoup de portraits, c'est vraiment ce que j'adore le plus, et j'aime vraiment rentrer dans l'intimité des sujets que je photographiais. Et c'est souvent très délicat, les personnes que tu photographies, elles n'ont pas l'habitude que tu les photographies justement, et elles sont un peu mal à l'aise, elles essaient de montrer qui elles sont, mais elles se sentent un peu démunies face à cette espèce d'appareil photo, voilà. Et les enfants encore plus. Moi, je rentrais vraiment en relation avec les personnes grâce aux vêtements. Donc, tu vois, un enfant, c'est, tu arrives, maman, elle a prévu tel joli vêtement, mais en fait, il n'a pas du tout envie, il ne connaît pas, c'est qui cette photographe qui arrive. Et moi, je rentrais en contact en leur disant, tu sais, tu n'aurais pas une malle avec des costumes Donc, la maman me regardait avec des gros yeux en me disant « Mais non, non, laisse-moi faire, tu vas voir, t'inquiète. » Et le petit garçon, la petite fille mettait son costume et on faisait une séance de 5-10 minutes à faire n'importe quoi, à sauter sur les lits. Et d'un seul coup, le contact se faisait. Il rentrait en confiance avec moi et puis surtout, il commençait à se libérer, à être lui. Et c'était la même chose avec les femmes, les hommes que je photographiais. On allait souvent dans leur dressing, leur armoire, leur tiroir et… elle me racontait, ah ben, cette pièce, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas portée, ou ça leur parlait. Et en fait, grâce à ça, on rentrait, en fait, elle me donnait beaucoup plus. Elles arrivaient à s'exprimer, et parfois d'ailleurs, elles n'en portaient pas. Elles me disaient, bah, tu sais que finalement, je ne vais pas porter quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que pour moi, c'était vraiment un moyen d'expression. En tout cas, je rentrais en contact avec les personnes grâce à ça. Et donc, on pouvait raconter l'histoire de la personne. Et c'est chouette, tu vois. Donc ça a été mon premier pas vers le vêtement. Et ensuite,
donc là, tu as fait une transition, un début de transition parfait. Donc là, tu es dans ton métier. Donc on est en quel on est quoi, il y a 4-5 ans?
Ah non, moi j'ai 47, donc j'avais 36 ans, donc c'était il y a 10 ans, tu vois.
Il y a 10 ans,
je me mets en tant que photographe. Moi avant, je suis complète autodidacte par la force des choses, des problèmes familiaux. Il a fallu qu'après le bac, je me débrouille. Et si tu veux, j'ai une personnalité qui est vraiment scindée en deux. J'ai 50% de moi qui est ultra créative. J'ai besoin de créer tout le temps. Donc, je vais dessiner, peindre, faire de la poterie, du jardinage, de la pâtisserie, faire de la photo. C'est pour moi hyper important pour me sentir bien. Et j'ai 50% qui est... porteuse de projet, quand tu es autodidacte, tu es obligée d'apprendre sur le tas. Moi, j'adore le contact humain. Donc, je me suis retrouvée à gérer des business où il y avait 30 personnes qui avaient le même âge que moi. Et j'adore ça, j'adore le commerce, j'adore réfléchir. En réalité, c'est quand tu es entrepreneur, c'est de la grande créativité. Tu es toujours en train de… Tu es en contrainte et tu dois trouver des solutions. Et moi, je trouve ça absolument magique. Et donc, la vie fait. Moi, je me suis mariée une première fois, j'ai eu deux enfants. Et donc, tu fais des métiers, tu me mettais n'importe où, j'étais capable de vendre n'importe quoi. Donc, je restais quand tu es obligé d'avoir un emprunt. Et j'avais quand même toute cette partie créative à côté. Et puis, le divorce arrive et là, je me dis, je suis capable de faire autre chose. Donc, il y a ce premier métier en tant que photographe. À ce moment-là, ça marche plutôt très bien. Je suis publiée dans le Milk, je commence à avoir pas mal de ça marche, c'est chouette. Et puis je m'associe dans la création d'une start-up qui va être incubée à Station F. On était sélectionnés par HEC et on a fait partie des toutes premières start-up. On a littéralement essuyé les plâtres de Station F à Paris. C'était une start-up dédiée autour du transfert de transmission du savoir des très, très grands sportifs, vraiment des champions du monde. Et donc, moi, j'étais sur la partie direction artistique et je me suis retrouvée incubée, j'avais déjà 40 ans, avec des gens avec des têtes ultra bien faites, si tu veux, qui avaient 30 ans, qui sortaient de grandes écoles d'un peu partout dans le monde. Mais ce qui était génial, c'était voilà, cette science digitale qui est en fait ultra humaine, du fameux design thinking, de l'UX, de l'UI. Donc, je ne sais pas si ça te parle, le design thinking, c'est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthodologie qui permet vraiment de comprendre le persona essentiel de son application et d'aller comprendre ses besoins vraiment les plus simples pour pouvoir créer la features, la fonctionnalité absolument primordiale pour ton application. Et en fait, c'est une rentrée dans la psychologie de ton auditoire qui est géniale. Et moi, mais j'adore ça. Je me dis, mais c'est génial, en fait, ce système. Et donc, je m'éclate, mais en même temps, c'est moins créatif, moins, en tout cas, moi. À ce moment-là, je décide d'ouvrir mon compte Instagram. Qui était à l'époque vraiment une application dédiée à la photographie, à la création. Il n'y avait pas du tout de selfie, c'était vraiment de la photographie. D'ailleurs, il n'y avait que des photographes au début sur Instagram. Et donc, je crée mon compte et je commence à mettre du contenu, mais je n'ai pas ma tête, tu sais. C'est ce que je crée. Et j'ai sans le vouloir, une direction artistique, je raconte des choses. Et ce compte s'appelle Plume et Caramel à l'époque. Et parce qu'il y a beaucoup de gourmandise, moi je suis vraiment une méga gourmande, ça fait vraiment partie des plaisirs dont on parlait tout à l'heure.
Et donc là, ton contenu, c'est essentiellement tes photos?
Ouais.
Ok.
Des photos, du lifestyle, des gens, mais pas moi, j'apparais pas. Et je mets beaucoup, beaucoup d'énergie, je mets beaucoup de cœur. Et puis un jour, j'ai mon mari qui me prend en photo. cette photo remporte 3 fois plus de likes que d'habitude. Et au début, je le prends presque mal parce que je me dis par rapport à tout le travail que je fais. Et là, en fait, je comprends que ce que les gens souhaitent, c'est avoir les behind the scenes, tu sais, c'est derrière le rideau, savoir comment ça se passe. Et puis finalement, elles cherchent l'inspiration. Et donc, je commence à mettre en scène. Alors, des moments de vie. Et je commence à avoir des collaborations. Mais je ne parle jamais de style. Je ne parle jamais du vêtement. Tu vois, c'est ça qui est très rigolo.
Et à la base, du coup, ton objectif derrière ce compte Instagram, c'était quoi? Juste le partage?
Mon hygiène créative. J'avais besoin de ça. Et en fait, je voyais quand est-ce que je n'avais pas posté. Donc, c'est un peu comme ta séance de sport, si tu veux. Je disais, je n'ai pas posté depuis 4 jours. Il faut que je réfléchisse. Donc, je me mettais plein de challenges, que ce soit décoratif, gustatif, il fallait que je trouve quelque chose, donc c'était chouette. Ou alors une photo, je m'amusais vraiment, c'était bien. J'adore me mettre des challenges et puis choisir la photo et raconter l'histoire, parce qu'il y a vraiment une histoire. J'adore raconter les histoires et prendre le temps de l'écriture. Et donc je me rends compte que ces collaborations font vendre. Alors ça m'épate. Parce que je me dis, ah bon? Et quand tu as lancé un premier business, quand tu as lancé un second business, forcément, tu as ces automatismes, ok, je vais vendre. Et à ce moment-là, je me pose 2 questions. Parce que j'ai vraiment envie de sortir de la start-up, parce que c'est une start-up que j'ai lancée avec mon mari, et moi, en tout cas, travailler en couple, ça n'a pas été une grande réussite. Et puis c'était pas, comment dire, même c'était un projet qui était extraordinaire, clairement c'était pas le mien. Je m'y sentais pas aboutie dans ce projet, donc on a rapidement voulu, lui et moi, que je puisse sortir de cette aventure. Et donc j'hésite à ce moment-là entre écrire un livre sur le rapport à la peau, donc la psychologie, la peau, enfin. C'est un sujet qui me touche beaucoup, hein. Tu vois, le vêtement, la peau, il y a quand même des grandes similitudes. Et puis, je me dis, est-ce que je ne fabriquais pas des vêtements? Mais je ne conceptualise pas du tout le fait de lancer une marque, tu vois. C'est très... Et je me dis, écoute, on va faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire on va faire du design thinking, mais sur ta communauté. Et je commence à faire des ateliers de design thinking sur ma communauté, pour essayer de comprendre en fait quelles sont les valeurs qui ressortent du compte. Parce que tu as beau avoir ton idée, de ce que tu produis, mais entre ce que tu penses produire et la réalité des choses, ben, des fois, tu as une espèce d'écart énorme. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Donc, évidemment, il y a certains points qui, voilà, qui me paraissaient voilà, presque sûrs dès le départ. Et puis, il y a cette notion de style qui m'épate, d'allure, d'un style qui est vraiment plume. Et moi, je suis hyper surprise. Alors, après, on parle de bien-être, de sourire, de vie de famille, de voyage, voilà, de gourmandise, etc. Mais quand même, pardon, cette notion de style, je m'y attendais pas du tout parce que je ne prenais jamais la parole sur les vêtements. C'est-à-dire que je racontais l'histoire que je vivais avec le vêtement, mais je ne prenais jamais la parole sur le vêtement parce que déjà, je ne me sentais pas du tout légitime de parler de ça. C'était le fameux sentiment de l'imposteur, là, tu sais. Et je me dis quand même, ok, et ça commence à cheminer très vite dans ma tête. Et à partir du moment où ça commence, ça va très très vite. Donc je me dis, ok, Céline, tu sais dessiner, tu sais photographier, tu sais faire des vidéos, tu sais monter tes vidéos, tu sais créer un site internet, tu sais écrire, tu sais gérer une communauté, tu sais faire un peu de business. Ok, donc maintenant, comment on fait pour fabriquer des vêtements? Et ça, je t'assure, ça prend 24 heures. Je googlise, parce que quand tu lances un business, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est que tu googlises, voilà.
Exactement. Google.
Exactement. Et à ce moment-là, évidemment, je tape « industrie du prêt-à-porter ». Et évidemment, ressort le fameux classement que tu as énoncé au tout début de cet entretien. Donc, l'une des industries les plus polluantes de la planète. Et là, je fais des pouces en l'air et je me dis, super, Céline, alors là, tu choisis la meilleure industrie, trop bien. OK, donc ça, c'est une première information. Et deuxième information, je n'ai que 20 000 euros. Donc, je me rends compte, évidemment, en creusant un petit peu, entre les frais de prototypage, si tu veux le besoin en BFR nécessaire pour lancer une production bon, avec 20 000 euros c'est même pas que c'est microscopique, c'est que ça n'existe pas dans le monde du prêt-à-porter. Donc j'ai ces deux problématiques qui sont quand même pas petites qui se posent à moi, voilà. Et c'est là en 24 heures en googlisant encore une fois, je trouve une marque australienne qui fait malheureusement qui n'existe plus, qui faisait du prêt-à-porter en précommande. Et à ce moment-là, il y a Asphalt Homme en France qui commence à bien faire parler d'elle sur le garçon. Et je me dis, mais en réalité, la précommande, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ça a existé il y a 60 ans. On a juste commencé à acheter des vêtements directement que depuis il y a très peu de temps, si tu vois, sur la durée quand même des vêtements dans l'histoire de l'homme. Ok, et je me dis, ben tiens, ben, peut-être que grâce à ça, je peux avoir un impact sur le vêtement, c'est-à-dire la production, essayer d'être moins impactante sur la fabrication de vêtements. Et en termes de besoin de BFR, ben, j'en ai beaucoup moins besoin, clairement. Donc, bah, l'idée de la précommande, elle est venue en 24 heures. Voilà, ça s'est fait très, très vite. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai pris les problèmes un à un.
Voilà. Alors, je fais un petit arrêt sur l'image parce que tu as apporté tellement de choses. Là, je suis en passion totale. On va revenir sur certains points. Il y a notamment les deux points très, très importants. Tu évoquais la notion d'argent parce que chez nos auditeurs, là, bah, c'est un des quatre freins majeurs hein, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est justement le rapport à l'argent, changer son rapport à l'argent. Et ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est justement que ça a été un peu au centre de ta réflexion et presque de la création du concept, en fait, justement. Voilà ce que j'ai et comment je peux contourner ça pour finalement que la contrainte devienne un peu un atout. Enfin, quand on est, je suis anciennement décoratrice d'intérieur, donc on se comprend en termes de créativité. Et dans l'architecture, c'est toujours ce qu'on faisait, hein, c'est-à-dire, ok, il y a un poteau central immonde. Comment je fais de ça finalement l'atout majeur de ma déco? Et du coup, dans ce que j'entends, donc, alors je travaille beaucoup moi en coaching hein, sur le rapport à l'argent pour oser passer le cap, etc. Et c'est vrai que on essaye aussi de transformer un peu cette vision d'argent sonnant et trébuchant en termes d'énergie. L'argent, c'est aussi tout simplement une des énergies qui contribue à ton projet. Et comment je le vois différemment. Donc, je trouve super intéressant ce que t'apportes là. Et il y a aussi ce parcours un petit peu finalement, comme tu le disais en début d'échange, ce parcours un petit peu, c'est arrivé. Par hasard, on n'y croit pas du tout, mais c'est arrivé finalement.
Non, vraiment. En fait, le par hasard, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de hasard. Mais c'est, j'ai coutume de dire qu'il y a une croisée des chemins.
Exactement.
Et pour moi, l'opportunisme, ce n'est pas un vilain mot, dans le sens où, à un moment donné, les chemins se croisent et c'est une évidence, en fait. Alors, tu ne travailles pas en disant « Eureka ». Pas du tout. C'est juste que les choses se une rencontre, une problématique, un savoir-faire, une situation personnelle. Enfin, grosso modo, c'est savoir se dire ok, bon, voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que j'en fais?
L'opportunisme. Moi, je dirais. Je penserais plus à l'agilité, en fait, enfin, dans le sens positif. C'est comment être à l'écoute des signes et comment un peu prendre la vague, être un peu dans le flot de ce qui se passe pour être à son écoute, mais aussi à l'écoute des signaux du moment. Et ce que j'aime bien dans ton cheminement, c'est pour me répéter, c'est que j'ai l'impression que ton guide, ça a été aussi un peu la notion de plaisir, finalement, d'aller là. Oui. Ou ton compte Instagram, ça a alimenté ta créativité, c'était un plaisir pour toi. Les rencontres humaines que tu as pu faire, voilà, où tu t'es laissé happer naturellement par ça. Et puis finalement, petit à petit, le projet se construit.
Le projet se construit et le projet évolue aussi comme ça. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, quand on me pose la question, en ce moment, tu vois, on est en pleine levée. Et quand il y a une personne qui m'a posé la question l'autre jour, en me disant bon, si je te pose la question bateau, qu'est-ce que tu imagines pour plus dans 5 ans? Et je lui dis mais je ne sais pas.
Laisse-moi tranquille.
Non, mais même pas. Tu vois, c'est je ne sais pas parce que les problématiques sont tellement, elles arrivent tellement, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ton mois. Le monde regarde comme il change. On a eu le Covid entre-temps, la guerre en Ukraine. Il y a énormément de choses qui se passent. Et tu vois, là, j'ai eu une opportunité business qu'on a signée il n'y a pas très longtemps. Et il y a un an, tu m'aurais posé la question sur ce sujet-là. Je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Et en fait, tu as une réflexion qui évolue. Et au contraire, tu peux peut-être le voir aussi complètement différemment, à l'envers. Tu te réveilles un matin en disant, mais alors, attends, je l'avais pensé comme ça, mais finalement, si je le pense comme ça, et tu te retrouves à te repositionner, c'est la création de l'aventure se fait comme ça, mais le cheminement de l'aventure se fait comme ça en réalité. Et je trouve que c'est ça qui est chouette.
C'est ça qui est chouette, et aussi pour boucler la boucle, ce que t'as évoqué, le syndrome de l'imposteur, et c'est ce que j'explique aussi souvent en coaching, c'est que le plaisir et cette énergie-là est un des premiers remèdes au syndrome de l'imposteur, parce que finalement, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, et ça m'a fait sourire, finalement, quand t'es dans le plaisir, tu dis, mais ça, je sais faire, en fait, et ça, je sais faire, ok, ça, je sais faire, et donc, si j'additionne tout ça, au final, ça peut donner quelque chose.
Oui. Exactement. Voilà, je ne sais pas quoi te répondre d'autre parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que tu te poses moins de questions. Voilà. Tu te poses moins de questions, parce que tu t'en poses toujours, hein, même encore aujourd'hui.
Et alors, justement, tu nous parlais Si on en vient, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, voilà, je fais ma recherche Google, je me rends compte qu'en fait, super, je tombe sur le truc le plus polluant, comment je vais faire, etc. Et tu parlais des valeurs que tu partageais avec les gens que tu as rencontrés, que c'était hyper important pour toi. Aujourd'hui, tu dirais justement que ton projet tel qu'il est, comment est-ce qu'il incarne tes valeurs?
Alors, je vais, si tu veux, voilà la vision que j'ai. Moi, j'arrive pas du tout du monde de la mode, donc j'ai pas du tout été formée en tant que directrice artistique. J'ai ce rôle-là. Pour moi, déjà, une marque est une marque en réalité à partir du moment où il y a une cohérence globale dans l'expérience de la marque. Donc, que ce soit sur le vêtement, que ce soit dans la manière de communiquer, dans l'expérience de l'unboxing, dans l'expérience digitale, dans la boutique si tu en as une, dans le vêtement évidemment, et donc dans la communication, les photos que tu vas transmettre, et ces valeurs-là, intrinsèquement, je les véhicule parce que c'est moi qui aujourd'hui suis à la tête de cette direction. Donc, si je les porte, je vais forcément les véhiculer. Après, dans notre quotidien, tu vois, typiquement, moi, je suis très touchée par deux causes vraiment très fortes. C'est la maltraitance infantile et les droits de la femme. Plume avait à peine un mois qu'on a lancé un t-shirt qui était bio, qui s'appelait Bright Morning. Et dans toutes dans tous les bénéfices des ventes ont été reversés auprès de l'association L'Enfant Bleu. On a fait la même chose avec la Fondation des Femmes. On a accompagné un ballet franco-russe, pardon, ukraino-russe. voilà. Et en tout cas. On essaie de le faire aussi parce que ça nous fait plaisir. Donc ces valeurs-là, voilà, c'est dans notre ADN. Élise, moi je lui ai promis que deux choses quand on s'est associés. Je lui ai dit, un, tu sais, on va pas s'ennuyer. Je peux te dire qu'on s'ennuie pas. Et deux, je lui ai dit, on va tout faire pour le faire avec le plaisir. Et donc il y a des fois c'est pas simple, des fois c'est super. Et quand tu partages, quand tu échanges, quand tu fais des choses dont tu es fière, et bien ça te fait du bien. Et nous, c'est notre façon d'avoir notre impact. Alors après, évidemment, je peux te parler de la production, je peux te parler de nos méthodes de fabrication, de nos lieux de fabrication. Mais ça, si tu veux, pour moi, c'est tellement obligatoire, c'est tellement dans notre comment dire, oui, dans notre ADN. On n'est pas parfaite, on ne sera pas. Pas parce que les standards dans 10 ans seront encore changés, mais à chaque fois, on se pose la question de comment faire mieux. Voilà, sur ce produit-là, est-ce que c'est de l'upcycling? Est-ce que c'est du made in France? Est-ce que c'est un tissu ultra quali qui va durer beaucoup dans le temps? Est-ce que c'est. Voilà, à chaque fois, on se pose des questions. On se pose des questions tout le temps. Notre packaging, il est fabriqué en France. On essaie de on travaille à valoriser nos envois. Tu vois, typiquement, au lieu de faire plusieurs envois, on contacte les clientes en disant, bon, ben, est-ce que vous préférez pas qu'on fasse un seul envoi, sachant que ben, le plus gros impact carbone aujourd'hui, c'est le dernier kilomètre sur une livraison. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, tu es la personne qui porte les valeurs de ta société. Les gens vont te suivre. Et donc voilà, je peux pas te dire autrement que c'est moi que je mets dans ma société complètement. Donc, elle porte forcément mes valeurs.
Exceptionnellement, j'ai choisi de diviser cet épisode en deux pour m'adapter au mieux à vos plannings d'écoute. Alors, je vous propose de se retrouver tout de suite ou plus tard pour aborder le thème de l'association depuis le coup de foudre jusqu'à la répartition des tâches en passant par le pacte associé, l'épisode Covid quand on a la bonne idée de se lancer un 1er mars 2020, l'incarnation de la marque et de ses valeurs, comment on décortique la montagne par étapes quand on décide de se lancer dans un projet entrepreneurial et bien sûr les prochaines étapes de Plume Paris pour toujours faire mieux. On se retrouve dans la deuxième partie.